Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je vous propose de poursuivre notre périple aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie sur le site ultra-secret situé près de la ville de Semipalatinsk. C'est ici, entre 1949 et 1962, que l'URSS a fait exploser un demi-millier d'engins nucléaires, avec parmi les ingénieurs mobilisés à la demande de Staline, un certain Sakharov. Je vous raconte la suite de son histoire dans cet épisode. Seconde partie, tout allait parfaitement. Pour Andrei Sakharov, son arrivée avant l'âge de 30 ans dans ce qu'on appelle l'installation, c'est-à-dire le cœur du site de recherche nucléaire créé par le régime soviétique après la Seconde Guerre mondiale, est plus qu'une promotion. C'est un changement de vie radical. En effet, jusqu'à sa thèse de docteur en physique soutenue en 1947, Sakharov a vécu comme presque tous les Russes dans des conditions qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Durant la guerre, il a travaillé nuit et jour à l'usine de production de munitions. Alors qu'il est déjà aspirant au doctorat, on n'a pas pu lui attribuer de logement. Il est donc contraint de dormir dans le couloir de l'université avec sa toute jeune femme. Et les allées et venues des étudiants ne sont pas le pire désagrément. Privés de chauffage, les bâtiments sont en hiver à la température de l'extérieur. Et la nuit, passée 2h du matin, Sakharov et sa compagne se couchent sur 10 cm de glace. Mais le jeune homme est de ces natures qui, lorsqu'elles ont une idée, la portent à son terme, quelles que soient les conditions. Durant les heures qui lui sont données pour se reposer, son esprit continue de produire formule sur formule, et lorsqu'il s'assoupit enfin pour 3 petites heures, il se réveille avec la solution du problème. Pour faire sa thèse cette fois, Sakharov a reçu l'autorisation de loger à l'extérieur de l'université. Il a amené sa femme chez sa mère. Ce n'était pas une très bonne idée. Pour une fois, la formule imaginée par notre génie en herbe fait long feu, car les deux femmes se haïssent dès la première heure du premier jour. Sakharov est affligé par cette ambiance exécrable, mais il n'en continue pas moins de résoudre ses problèmes de physique envers et contre tout. Arrivé au Kazakhstan, au sein donc de la très secrète installation, Sakharov retrouve quelques-uns de ses anciens compagnons de guerre et une partie de ses anciens maîtres. Tous les matins, il voit aussi passer sous sa fenêtre la colonne des déportés qui s'avance vers l'usine de traitement des matières fissibles, escortée par des soldats en armes et une meute de bergers allemands. À l'époque, il ne s'en émeut pas plus que ses collègues. Ce genre de voisinage est le lot des Russes depuis des décennies. Et puis, sont-ils vraiment moins libres que les scientifiques de l'installation?
La vie des libres était bien sûr très différente de celle des détenus. Mais parmi les libres, les conditions de vie des gens de l'installation étaient bien meilleures que celles des gens de la ville, c'est-à-dire des gens de la ville à côté de laquelle avait été construite l'installation. Mais la vie des libres, elle aussi, est soumise à règlement. Personne dans l'installation ne pouvait partir en congé, rendre visite à ses proches, même s'ils étaient gravement malades ou mourants, se rendre à un enterrement, aller en mission, sans l'autorisation de la section du règlement. Les jeunes chercheurs de l'installation n'avaient pas le droit de quitter les lieux la première année de leur service.
Alors, faute de liberté, les liens se resserrent entre les anciens camarades. Sakharov, qui semble toujours dans la lune, devient celui qui peut résoudre les problèmes les plus complexes. Tous se souviennent de ce jour où il fallait impérativement trouver une solution pour protéger les carlingues d'avion. En effet, elles étaient exposées à la radioactivité des engins qu'on faisait exploser dans l'atmosphère. La pression ce jour-là était énorme. Le jour de l'essai programmé était déjà déterminé, il ne pouvait être changé. Sakharov, comme à son habitude, s'endort avec une vague idée en tête, L'avant-veille de l'essai, il se réveille vers 5 heures, file à la douche collective. Et c'est dans la file d'attente, en slip, qu'il note à la hâte sur un papier arraché au tableau de la semaine la formule chimique de l'enduit capable de protéger l'avion des rayons nocifs. À l'installation, il a malgré tout reçu plusieurs fois des avertissements. On se méfie de son côté humain, trop humain, car Sakharov s'inquiète des répercussions écologiques des explosions nucléaires. Il redoute aussi leur impact sur les individus. Et il n'est pas le seul. L'un de ses collègues lui révélera par la suite qu'il ne pouvait penser à un échantillon de matière fissible sans penser au groupe humain qu'il allait détruire. Sakharov est finalement sommé de mettre de côté cette sensiblerie nuisible pour l'édification du marxisme-léninisme. Et il consent à se taire. Il est tout de même curieux de voir ce que donnera l'essai de cette nouvelle bombe dont il est l'inventeur et qui utilise pour la première fois la fission de l'hydrogène. Nous sommes alors en 1953. Il est prisonnier de l'installation depuis 4 ans déjà. Sur l'étendue du polygone de Semipalatinsk, on a disposé un certain nombre d'éléments pour mesurer l'impact des explosions. Au centre, il y a une tour qui signale la présence de la bombe. Autour d'elle, selon des cercles concentriques, ont été construites des maisons d'habitation éloignées à 1 km. Puis, 500 mètres plus loin, des tanks. Puis encore au-delà, des avions. Et enfin, attachés à des piquets, des animaux vivants. Des chiens, des moutons, des chevaux, des chèvres et des poules. L'ensemble du dispositif est filmé par plusieurs caméras. Parmi les centaines de chercheurs qui participent à l'expérience, quelques rares âmes délicates se sont demandé s'il ne se trouvait vraiment personne sur la zone d'essai. Mais si l'on en parle, c'est toujours à mots couverts. Il ne faut surtout pas contrarier la marche du plan décidé en haut lieu. Chaque erreur commise peut signifier la déportation ou la mort. Quelques mois auparavant, un incident avait semé la panique dans les rangs. Une nouvelle usine avait été construite pour fournir un matériau indispensable à la confection de la bombe. Or, par souci d'économie, le responsable de ce secteur, un nommé Pavlov, avait tenu à faire fonctionner l'ancienne usine. Malheureusement, une panne avait retardé la production du précieux composant. Le responsable fut convoqué chez le redouté camarade Beria. Ce jour-là, Sakharov était à ses côtés.
Sans doute Beria avait-il eu ses propres informations. Il se leva et dit en substance ceci. « Nous autres, bolcheviks, quand nous voulons faire quelque chose, nous fermons les yeux sur tout le reste. » En disant cela, Beria cligna des yeux et son visage en devint encore plus effrayant. « Pavlov, vous avez perdu votre mordant de bolcheviks. Pour l'heure, nous ne vous châtirons pas. » car nous espérons que vous corrigerez votre erreur. Mais sachez bien que nous avons beaucoup de place dans nos prisons. »
Devant de tels arguments, il était clair que les questions d'ordre déontologique touchant à l'expérience nucléaire étaient éludées d'emblée. Sakharov, comme les autres, consacra donc tous ses efforts à l'achèvement de la bombe. L'explosion était prévue pour le mois d'août 1953. Au mois de juillet 1953, l'engin est enfin terminé. Sakharov se rend à bord d'un petit avion sur le polygone où va avoir lieu l'essai. Il s'émeut d'abord de la beauté de la steppe kazakh. Il observe les troupeaux de brebis et les vols de canards au-dessus des étangs. Mais il apprend très vite qu'un problème sérieux vient de surgir. Il a été décidé en haut lieu que l'explosion ne se ferait pas dans les airs, mais sur terre, depuis la tour prévue pour cette option. À quelques jours de l'essai, un chercheur du nom de Gavrilov a mis les pieds dans le plat. Il est venu rappeler qu'une explosion terrestre entraîne immanquablement des traînées radioactives mortelles, bien au-delà du périmètre de sécurité prévu par les autorités. En haut lieu, on ironise.
Tout allait parfaitement et voilà, Gavrilov arrive et tout va de travers.
Alors dans l'urgence, on compose une équipe de recherche. Sa mission, c'est de définir avec précision les risques pour les populations situées hors du polygone. On est à quelques jours de l'essai. On travaille nuit et jour, c'est la panique. Et la conclusion est sans appel.
nous évaluâmes la distance à l'intérieur de laquelle on pourrait atteindre une dose globale de rayonnement radioactif à la limite de 200 rentgens. Nous partions du fait qu'une dose de 100 rentgens peut causer des lésions sérieuses chez les enfants et les personnes faibles, tandis que 600 rentgens causeraient la mort d'adultes en bonne santé dans 50% des cas. Les populations qui habitaient dans le secteur touché par les vents, en deçà de la limite de 200 rentgens, devaient impérativement être évacuées. Concrètement, cela représentait des dizaines de milliers de personnes.
Précisons que les rentgens constituent l'unité de mesure d'exposition aux radiations. Alors les responsables sont évidemment immédiatement avertis du risque, mais il reste un pas vide. Évacuer des dizaines de milliers de gens comme ça, rendez-vous compte du traumatisme pour eux. Les malades, les enfants, les vieillards seraient soumis à un stress fatal, il y aurait à coup sûr des victimes. Rendez-vous compte du caractère affreusement pénible d'une telle épreuve. Non, non, il vaut mieux les laisser là, et advienne que pourra. En réalité, quelques morts ne représentent rien, comparé à une expérience si importante pour la défense du pays. Sakharov confie quand même sa stupeur à un ami qui lui répond
« T'en fais pas, tout ira bien. Il y aura une solution heureuse et nous n'aurons plus à nous inquiéter pour les petits Kazakhs. Nous les oublierons. »
Malgré tout, sous la pression des chercheurs, les autorités finissent par accepter d'évacuer une colonne de camions de l'armée par chercher ceux qui se trouvaient d'être humains sur les abords du site, hommes, femmes, enfants. Tous sont sommés de monter dans les véhicules. Puis, malgré la nuit, on les débarque 80 km plus loin, en donnant à chacun un pain et une bouteille de vodka, cadeau de la très généreuse mère patrie. Le jour J arrive enfin. Sakharov, quelques autres jeunes scientifiques et les responsables de l'expérience, dont le célèbre Igor Tam, le fameux professeur de Sakharov, sont amenés au poste d'observation situé à 35 km du lieu d'explosion. On échange des blagues salaces afin d'essayer de détendre l'atmosphère.
Conformément aux instructions, nous nous couchâmes à plat ventre, par terre, le visage tourné vers l'explosion. Une attente pénible commença. À côté de nous, un haut-parleur diffusait des ordres. Il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 5, 4, 3, 2, 1. En cet instant, il y eut un éclair au-dessus de l'horizon, puis une boule blanche apparut et s'étendit très rapidement. Sa lueur envahit l'horizon tout entier. J'arrachai mes lunettes de protection et bien que je fusse aveuglé par le brusque changement entre l'obscurité et la lumière, j'eus le temps d'apercevoir un immense nuage grandissant sous lequel se répandait une poussière pourpre. Puis le nuage devint gris, s'éleva rapidement du sol, se déploya avec des flamboiements orangés. À cet instant, nous fûmes atteints par l'onde de choc, un ébranlement assourdissant dans les oreilles et une secousse dans le corps tout entier, puis un grondement prolongé et sinistre. Quelques minutes après, le nuage devint bleu sombre, maléfique, et finit par occuper la moitié de l'horizon. Au bout d'une demi-heure, il disparut.
L'expérience a réussi. On s'embrasse, on se congratule. Le régime soviétique a désormais sa bombe. Les responsables du projet proposent à Sakharov de les accompagner sur le point de l'explosion. Ils enfilent des combinaisons spéciales et ils avancent petit à petit en camionnette parmi les matériels témoins disposés sur le site. Les maisons ont été soufflées. Les tanks et les avions sont déchiquetés.
Soudain, les voitures freinèrent brutalement près d'un aigle dont les ailes avaient été brûlées. Il tentait de s'envoler, mais en vain. Ses yeux étaient troubles. Peut-être était-il devenu aveugle. L'un des officiers descendit de voiture et l'acheva d'un coup de botte.
Les autres animaux sont récupérés. On répertorie les lésions produites par l'explosion. La plupart sont encore vivants, quoique atrocement mutilés. Les yeux des chevaux ont éclaté. Des chiens se traînent avec leurs pattes avant, les reins brisés. Cette expérience va apporter une notoriété définitive à Sakharov en donnant à l'Union soviétique l'arme la plus redoutable jamais construite par l'homme. Jusqu'en 1962, un demi-millier d'essais ont été entrepris par l'URSS, faisant du Kazakhstan la région la plus radioactive du monde. Plus tard, Sakharov, revenu de ses premiers émois de scientifique, confessa dans ses mémoires s'être montré, comme tous les scientifiques, un peu tête en l'air. Il affirma que les essais nucléaires soviétiques avaient indirectement coûté la vie à 160 000 personnes au Kazakhstan. Mais c'était sans compter les anomalies génétiques qui affectent les enfants. Inexorablement, chaque génération apportant son lot d'anomalies, parfois fatales, à la vie des embryons. Le polygone de Semipalatinsk est aujourd'hui une zone protégée. Sur le squelette de l'ancienne tour où l'on fit exploser des machines infernales, un artiste a peint une réplique du cri de Munch. Aux alentours, la végétation a repris, presque luxuriante. Des pêcheurs jettent leurs lignes dans les étangs voisins. Mais qu'en est-il de cette terre qui, sous leurs pieds, a accumulé près de 2000 fois les radiations tombées sur Hiroshima? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai et vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation a été coordonnée par Victor Nolo. Et si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, la bibliographie de cet épisode vous attend comme toujours sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.